Et si Marie soudain lui déclarait qu'elle l'aimait toujours, qu'elle l'avait attendu sans faiblesse et qu'un affreux malentendu avait été la seule cause de leur séparation, oui, si cela était, Guccio savait qu'en ce cas, il ne résisterait point, qu'il oublierait ses griefs aussitôt qu'exprimés et qu'il emmènerait sans doute Marie de Crécy à Sienne, dans le palais familial, pour présenter sa belle épouse à ses concitoyens. Et pour montrer à Marie cette ville neuve, moins grande que Paris ou que Londres, certes, mais qui l'emportait en magnificence architecturale, avec son municipio édifié depuis peu, et dont Simone Martini terminait actuellement les fresques intérieures, avec sa cathédrale noire et blanche qui serait la plus belle de Toscane, une fois sa façade achevée. Ah, le plaisir de partager ce que l'on aime avec une femme aimée! Et que faisait-il à rêver devant un miroir d'étain au lieu de courir à Crécy et de profiter de l'émotion de la surprise? Et puis il réfléchit. Les amertumes pendant 9 ans remâchées ne pouvaient pas s'oublier d'un coup, ni la peur non plus qu'il avait chassée un matin de ce jardin même. Les cris furieux des 2 frères Crécy qui voulaient lui rompre l'échine. Sans un bon cheval, il était mort. Mieux valait envoyer le sergent d'armes avec la lettre du comte de Bouville. La démarche aurait plus de poids. Mais Marie, après 9 années, était-elle toujours aussi belle? Serait-il toujours aussi fier de se montrer à son bras? Guccio pensait avoir atteint l'âge où l'on se conduit par la raison. Or, si une ride s'enfonçait entre ses sourcils, il était toujours le même homme, le même mélange d'astuce et de naïveté, d'orgueil et de songe. Tant il est vrai que les années changent peu notre nature et qu'il n'est pas d'âge pour nous délivrer des erreurs. Les cheveux blanchissent plus vite que les faiblesses. On rêve d'un événement pendant 9 années, on l'espère et on le redoute. On prie la Vierge chaque nuit pour qu'il s'accomplisse, et l'on prie Dieu chaque jour de l'empêcher. On s'est préparé, soir après soir, matin après matin, à ce que l'on dira s'il se produit. On a murmuré toutes les réponses que l'on donnera à toutes les questions que l'on a imaginées. On a prévu les 100, les 1000 façons dont cet événement pourrait survenir. Il survient, on est désemparé. Ainsi se trouve Marie de Crécy ce matin-là, parce que sa servante, qui fut autrefois confidente de son bonheur et de son drame, est venue tout à l'heure lui chuchoter à l'oreille que Guccio Baglioni était de retour, qu'on l'a vu arriver au village de Naufle, qu'il semble avoir train de seigneur, que des sergents du roi lui servent d'escorte, qu'il doit être messager du pape. Les gamins sur la place ont regardé bouche bée le harnais de cuir jaune brodé des clés de Saint-Pierre. À cause de ce harnais, cadeau du pape au neveu de ses banquiers, toutes les cervelles du village se sont mises à travailler. Et la servante est là, essoufflée, les yeux brillants d'émoi au-dessus de ses joues rouges, et Marie de Crécy ne sait ce qu'elle doit ni va faire. Elle dit « Ma robe !» Cela lui est venu tout seul, sans y réfléchir. Et la servante a aussitôt compris parce que Marie a peu de robes, et qu'elle n'en peut demander d'autre que celle-là qui fut cousue naguère dans le beau tissu de soie donné par Guccio, celle qu'on sort du coffre chaque semaine, qu'on brosse avec soin, qu'on défroisse, qu'on aère, devant laquelle on pleure parfois et qu'on ne revêt jamais. Guccio peut apparaître d'un moment à l'autre. La servante l'a-t-elle aperçu? Non, elle ne rapporte que des nouvelles qui couraient de seuil en seuil. Peut-être est-il déjà en chemin. Si seulement Marie avait une pleine journée pour se préparer à cette arrivée, elle a attendu 9 années, et cela revient à n'avoir qu'un seul instant. Qu'importe que l'eau soit froide dont elle s'asperge la gorge, le ventre, les bras, devant la servante qui se détourne, surprise de l'impudeur subite de sa maîtresse, et puis coule un regard vers ce beau corps dont c'est pitié vraiment qu'il soit sans homme depuis si longtemps, et qu'elle se mette à jalouser un peu en voyant comme il est demeuré plein et ferme et pareil à une belle plante sous le soleil. Pourtant les seins sont plus lourds qu'autrefois et s'affaissent légèrement sur la poitrine. Les cuisses ne sont plus aussi lisses. Le ventre est marqué de quelques petites stries laissées par la maternité. Allons, le corps des filles nobles s'abîme aussi. Moins que le corps des servantes, certes, mais il s'abîme quand même, et c'est justice de Dieu qui fait toutes les créatures pareilles.